Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Gaillac au micro en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du jeudi 1er mars 2018. À la une ce soir, tension à Gao au Mali suite à des manifestations de jeunes. Au Togo, conférence de presse de 14 partis de l'opposition sur le dialogue politique en cours. Au Niger, le gouvernement persiste et défend sa loi de finances malgré les manifestations de la société civile. Et en RDC, un groupe d'experts estime que l'ONU devrait suspendre son soutien au processus électoral. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Vive tension à Gao dans le nord du Mali. Les jeunes sont depuis hier dans la rue pour manifester contre la communauté arabe qu'ils accusent d'avoir tué un élément de la garde nationale natif de Gao. Des coups de feu sont entendus dans la ville et des blessés admis à l'hôpital. La ville est paralysée. Le commerce, les banques, les écoles sont donc restées fermées. Rien ne va entre les deux communautés arabes et Songhai de Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Tout a commencé hier soir après que Abdou Touré, un élément de la garde nationale, soit abattu par balle par des inconnus au quartier Château. Les jeunes très remontés ont brûlé des pneus en signe de protestation sur les artères principales de la ville. 4 blessés par balle ont été évacués sur l'hôpital. Les leaders des jeunes sont parvenus très difficilement à faire entrer les jeunes à la maison. Le rendez-vous est donné pour ce matin à la place de l'Indépendance. Et là, ça commence. Les jeunes prennent la direction d'Aljana Banja à la place Jiguinchor. Quelques instants après, on entend des coups de feu. 5 personnes sont touchées par balles et évacuées aussi à l'hôpital. Les groupes armés d'autodéfense arrêtent des hommes armés à bord de 2 véhicules et les conduisent à la gendarmerie. La ville est paralysée, le commerce, les banques, les écoles et les services publics sont restés fermés toute la journée. Il faut rappeler que tout est parti après que le corps d'un des 2 Arabes enlevé dans la commune de Traboui soit retrouvé sur les berges du fleuve Niger, dans le village de Barissadi, commune de Soni Alibert. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
4 casques bleus bangladais ont été tués et 4 autres grièvement blessés hier dans le centre du Mali, dans une attaque à l'engin explosif artisanal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement l'attentat. Mardi, 6 militaires et un garde forestier sont morts dans 2 attaques attribuées à des djihadistes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer la force conjointe du G5 Sahel. La Turquie fait partie des pays qui comprennent le plus les dangers auxquels sont confrontés les pays du Sahel, a-t-il expliqué lors d'une visite hier en Mauritanie. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont mis sur pied la force de quelques 5000 soldats pour lutter contre les groupes djihadistes. A noter que le président Erdogan s'est rendu ensuite au Sénégal. Au Niger, après des mois de manifestations contre la loi de finances 2018, le ministère des Finances a tranché. Le gouvernement ne cédera pas. Anastasie Tudiech.
Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une 20aine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. Ceux qui sont aujourd'hui dans la rue considèrent que payer l'impôt est illégitime et nous nous battrons, a averti le ministre nigérien des Finances, relevant que contrairement à ce qu'avancent ses détracteurs, le budget 2018 ne contient, je cite, pratiquement aucune mesure affectant les campagnes, fin de citation, où vivent 80% des 20 millions de Nigériens, en majorité pauvres. Le représentant de l'Union européenne a félicité et encouragé le gouvernement nigérien, jugeant que les nouvelles mesures n'ont rien d'excessif. Mi-janvier, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, proche du président Mahamadou Issoufou, avait estimé que certaines mesures répondent à une directive de 1998 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, déjà en vigueur dans les 8 États membres.
Au Togo, quelques jours après la suspension du dialogue politique, la coalition des 14 partis d'opposition a donné une conférence de presse à Lomé et revient sur la pierre d'achoppement des discussions avec le parti au pouvoir. À Lomé, la correspondance de Kei Lo Sion.
C'est le retour à la constitution de 1992 dans sa version originelle qui divise les deux partis. La coalition des 14 partis de l'opposition a clarifié sa position sur une éventuelle candidature de Fonia Singh en 2020. La coalition dit qu'elle n'accepterait en aucun cas un accord qui puisse lui permettre de briguer un quatrième mandat. C'est ce qui bloque les échanges, estime-t-elle. Suspendu pour 2 semaines, le dialogue politique ne peut être repris que si les autres mesures d'apaisement sont effectivement mises en œuvre, fait noter la coalition. Au rang de ces mesures, la coalition cite la levée du siège à Bafilo, à Sokoré et à Mango dans le nord du pays, l'élaboration d'une procédure pour le retour des exilés et déplacés et l'arrêt des persécutions et poursuites contre les militants et dirigeants de l'opposition. La coalition dit tenir fermement ce dernier point qui pourra permettre à tous les responsables de l'opposition de participer au dialogue en toute sécurité. Kyle Son, Lomé, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, la police menace de poursuites judiciaires, ce qui remettrait en cause sa version des faits après la mort d'un manifestant à Kinshasa lors de la répression de marches anti-Kabila. Un policier a été mis aux arrêts pour avoir tiré des coups de balle en caoutchouc à moins de 20 mètres sur Rossi Mukendi, a déclaré la police. Il voulait défendre son commandant d'unité agressé par une foule très hostile, ajoutent les autorités. Le porte-parole de la police a cependant reconnu qu'il s'agissait d'une bavure. RDC toujours, une conférence des pays donateurs se tiendra le 13 avril à Genève avec l'objectif de lever 1,37 milliard d'euros des fonds visant à faire face aux multiples crises humanitaires, expliquent les Nations Unies. La somme que l'ONU espère lever représente le double des fonds demandés en 2017. RDC, toujours, des experts de l'Université de New York recommandent à la mission des Nations Unies au Congo, la MINUSCO, de suspendre son soutien au processus électoral si les conditions pour des élections crédibles ne sont pas réunies. Le Conseil de sécurité devrait faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MINUSCO au cours de la prochaine année, estime-t-il. Les syndicats tchadiens ont été jeudi reçus par le président Idriss Déby Itno alors que le secteur public achève sa 5e semaine de grève consécutive. Monsieur Déby nous demande de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé, a indiqué une source syndicale citée par l'AFP. Zimbabwe, le président en exercice du principal parti d'opposition, Nelson Chamisa a été investi aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle prévue cette année à l'issue de la fin du règne de Robert Mugabe. Et en Tunisie, plusieurs dizaines de magistrats et d'avocats ont manifesté devant un tribunal près de Tunis. Ils protestaient contre ce qu'ils ont qualifié de pression policière sur la justice.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de Sud-Coréens ont manifesté à Séoul contre le rapprochement du président Moon Jae-in à la Corée du Nord et pour soutenir l'ex-présidente Park Geun-hye, condamnée à 30 ans de prison pour corruption. Nathalie Barge.
Les adversaires du président sud-coréen ont dénoncé sa politique d'engagement pour favoriser un dialogue et une coopération accrue avec le Nord. Le président Moon se rend complice dans les crimes contre l'humanité en approuvant les armes nucléaires de Kim Jong-un, a déclaré Kim Suk-woo, ancien vice-président de l'unification à Séoul. L'année dernière, la Corée du Nord a mené de nombreux essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis. Les dirigeants de Pyongyang sont également accusés de crimes contre l'humanité pour violation systématique des droits humains. Un rapport des Nations Unies de 2014 documente un réseau de prisons politiques en Corée du Nord et des cas de meurtres, tortures et viols parrainés par l'État.
Syrie, les forces gouvernementales et russes ont maintenu la pression militaire sur l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Leur trêve unilatérale n'a donc pas eu les conséquences humanitaires escomptées sur le terrain. Plus de 40 camions chargés d'aide n'ont pas pu pénétrer dans l'enclave assiégée depuis 2013, suscitant de nouveaux appels en faveur d'un cessez-le-feu, conformément à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU votée samedi et non suivie des faits. L'ONU espère pouvoir livrer d'ici depuis quelques jours. Nous avons été informés aujourd'hui que nous pourrions recevoir une lettre d'autorisation du gouvernement pour entrer dans Douma, explique l'ONU. Irak, le Parlement a voté une résolution demandant au gouvernement d'établir un calendrier de retrait des forces étrangères stationnées dans le pays, en référence à celle de la coalition internationale anti-djihadiste, mise sur pied en 2014 par les États-Unis pour déloger le groupe État islamique des territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie. Cette coalition rassemble 74 pays, dont seule une minorité a déployé des soldats au sol. Les États-Unis saluent la déclaration finale du processus de Kaboul sur la paix en Afghanistan, mais maintiendront la pression sur les talibans tant que les pourparlers n'auront pas abouti, a prévenu aujourd'hui l'ambassadeur américain à Kaboul. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
5 pays africains sont classés dans les 10 les plus touchés par la criminalité économique dans le monde. D'après le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, l'Afrique du Sud bat le record, le Kenya occupe le 2e rang mondial, l'Ouganda 4e, la Zambie 5e et la Tanzanie ferment le top 10 mondial. Le détournement d'actifs est le crime économique le plus commis à l'échelle mondiale, devant la cybercriminalité et les fraudes des consommateurs. L'Observatoire pour l'émergence en Afrique indique que 37 pays africains ont lancé un plan visant à se hisser au rang d'émergents. Toutefois, ce think tank admet qu'il n'existe pas de conceptualisation claire et adaptée à l'Afrique de la notion d'émergence. Selon ses experts, les paramètres macroéconomiques, le flou qui entoure la répartition du produit intérieur brut, la répartition de la dette ont leurs limites. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et les États-Unis ont atteint plus de 5 milliards de dollars en 2017, soit en hausse de 13%. Les importations en provenance des États-Unis comprennent essentiellement les fèves de soja et les avions civils. Les exportations égyptiennes sont essentiellement les vêtements prêts à porter, le textile, les engrais, le fer, l'acier, les légumes, les fruits et les hydrocarbures. L'Égypte est considérée comme la principale portée d'entrée des produits américains vers l'Afrique et le Moyen-Orient.
Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
La FIFA ne veut pas de querelle politique dans le foot.
C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à Téhéran le président de la FIFA Gianni Infantino évoquant le refus des Saoudiens de jouer en Iran. L'Arabie Saoudite refuse d'envoyer ses équipes de football en Iran dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en janvier 2016. Actuellement, les rencontres entre les équipes iraniennes et saoudiennes ont lieu à Oman selon une décision de la Confédération asiatique de football.
Et fin de carrière pour Steven Pienaar.
Le Sud-Africain dit stop à 36 ans après une dernière pige au pays à Beitwaterhouse. Le milieu de terrain a décidé de mettre un terme à sa carrière footballistique démarrée depuis 1999. Passé par l'Ajax d'Amsterdam, Dortmund, Everton, Tottenham et Sunderland, l'ex-Bafana Bafana avait mis un terme à sa carrière internationale depuis 2012. Après 61 sélections, il a notamment disputé la Coupe du Monde 2010 avec les Bafana Bafana.
Début ce jeudi à Birmingham des championnats du monde d'athlétisme en salle.
Oui, Morgan, 28 pays sont représentés dans la ville britannique et le continent africain pourra compter sur quelques valeurs pour des chances de médailles. Triple championne du monde, l'éthiopienne Genzebe Dibaba sera une nouvelle fois la femme à battre. Elle est alignée sur deux épreuves, le 1500 et le 3000 mètres. Un gros contingent ivoirien est présent à Birmingham. En tête, Marie-Josée Talou, récente vainqueur aux 60 mètres des Jeux d'Indou de Glasgow. Chez les hommes, il faudra compter avec Wilfried Kofi, Ben Youssef Meïté et la nouvelle perle Arthur Cissé. Le Burkinabé Fabrice Zango, lui, espère un podium après avoir battu le record d'Afrique du triple saut, vieux de 36 ans. Le mois dernier, avec un bond à 17,23 m, on gardera aussi un œil sur Frank Elamba, le lanceur du poids du Congo, sans oublier le Sud-Africain Louvo Mayonga, médaillé olympique au saut en longueur à Rio. Les championnats du monde d'athlétisme, on le rappelle, ça se déroule en salle et c'est le premier, au 4 mars.
Merci à vous, Ouédraogo.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. La ville de Gao, dans le nord du Mali, est le théâtre depuis plusieurs jours de tensions entre les populations Songhaï et arabes. Les deux communautés s'accusent mutuellement d'être responsables de la mort d'un des leurs. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Tout a commencé hier soir après que Abdou Touré, un élément de la garde nationale, soit abattu par balle près de la mosquée Kouette au quartier Château. Les jeunes ont brûlé des pneus en signe de protestation sur les artères principales de la ville. Des coups de feu ont retenti peu après et 4 blessés par balle ont été évacués sur l'hôpital. Le rendez-vous est donné pour ce matin à la place de l'Indépendance. Et là, ça recommence. Le chef coutumier Songhaï Arma et le représentant des Arabes tentent de calmer le jeu. Mohamed Ibrahim Touré, chef Arma.
Gao est notre terre natale. Nous ne devons pas y mettre le feu. N'écoutons pas les mauvaises langues. Chacun de nous a le devoir de protéger notre corps. Faisons donc attention pour que la paix et la stabilité puissent régner. Calmez-vous et acceptons de dialoguer pour trouver la solution à cette crise. Ce qui s'est passé est très mal, mais il faut le gérer avec intelligence.
Les jeunes, après avoir écouté les chefs coutumiers, prennent la direction d'Aljana Banja à la place Jiguinchor. Quelques instants après, on entend des coups de feu. 5 personnes sont touchées par balles et évacuées aussi à l'hôpital. Les groupes armés d'autodéfense entrent en jeu. Ils arrêtent des hommes armés à bord de 2 véhicules et les conduisent à la gendarmerie.
On est en train d'essayer de calmer les jeunes. Parce que la jeunesse est énervée. La jeunesse est trop fâchée. Donc il y a des gens qui nous-mêmes on a arrêté.
Vous avez arrêté où ça?
Au 4e quartier. Des gens qui ont tiré sur la population qu'on a arrêté et on les amène à la gendarmerie.
Les jeunes très en colère se rassemblent devant la gendarmerie et réclament le corps de ces hommes.
Les dénommés arabes ethnies ont eu des morts et ils ont dit on va faire justice. Après tout ça, ils sont partis tuer des gens à l'Andouce. Et ça, on n'est pas d'accord. C'est pour cela qu'on est aujourd'hui on est au dehors.
Vous réclamez quoi?
Nous, on réclame que justice soit faite. Sinon, on nous fait une justice. On fait aussi faire ça.
La ville est paralysée, le commerce, les banques, les écoles et les services publics sont restés fermés toute la journée. Il faut rappeler que tout est parti après que le corps d'un des deux Arabes enlevés dans la commune de Traboui soit retrouvé sur les berges du fleuve Niger dans le village de Barissadi, commune de Sony Aliber. En tout cas, la tension est très vive à Gao entre les deux communautés, Soré et Arabe. Boubacar Touré, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président turc continue sa tournée en Afrique où Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence. À Nouakchott, Recep Tayyip Erdogan a annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer le G5 Sahel. Et cette visite du président turc met l'accent sur le renforcement des partenariats économiques. Comment cette visite est-elle perçue au Sénégal où s'est rendu Recep Tayyip Erdogan? John Lyndon a posé la question au docteur Abdoulo, directeur de pour l'Afrique du cabinet Access Partnership.
Globalement, comme la visite de beaucoup de chefs d'État de pays émergents ou développés, la visite portera essentiellement sur des questions économiques et des partenariats, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz en grande quantité dans son sous-sol ces dernières années, disons les 5 dernières années, et que c'est un peu la course aux investissements et aux partenariats pour beaucoup de pays, en tête desquels se trouvent la France, le Maroc et maintenant la Turquie, parce que la Turquie est impliquée à terminer en tout cas le chantier de l'aéroport Blengagne, le nouvel aéroport flambant neuf dans la périphérie de Dakar. C'est la Turquie qui a fini les travaux après que les Saoudiens aient traîné pendant une dizaine d'années pour la finalisation. Donc ça, c'est un acquis très solide pour les Turcs qui ont pu montrer qu'ils étaient efficaces et rapides dans l'exécution de chantiers de grande envergure. Ils vont s'intéresser très clairement au pétrole et au gaz découvert au Sénégal. On peut également considérer que dans le secteur du tourisme, les deux pays pensent à élargir leurs relations. On peut également penser à un partenariat, à une nouvelle compagnie Air Sénégal qui va démarrer d'ici quelques mois, en tout cas avant juillet, et peut-être Turkish Airlines. Maintenant, au-delà de ces considérations économiques évidentes, qui sont prioritaires hein, pour tous les États maintenant. Il y aura certainement la question du dossier, la question des écoles, il y a des célines. Ceci, vraiment derrière nous, c'est secondaire.
À propos, justement, vous parliez d'économie tout à l'heure. Qu'est-ce que la Turquie apporte de plus que la France ou les États-Unis?
Alors, la Turquie est un peu dans le sillage de ce que fait la Chine. La Turquie étant elle-même, entre guillemets, victime de ce qu'on appelle la tyrannie des droits de l'homme. La Turquie n'est pas liée par des engagements de cet ordre-là en disant le partenariat sera conditionné.
Est-ce qu'au niveau de la population, on a des retombées de tous ces partenariats économiques que le Sénégal a avec des États comme la Turquie?
Si vous voulez, je pense que c'est en termes de gain de temps, en termes de coûts, que peut-être les populations vont voir les retombées, pas dans le panier de la ménagère, pour parler trivialement. C'est en termes de construction de logements sociaux, parce que vous savez que la nouvelle cité qui est en train d'être construite à la périphérie de Dakar, qui s'appelle Diamniado, c'est là où se trouve, si vous voulez, le nouvel aéroport. Il y a toute une nouvelle ville administrative qui se construit là-bas, avec beaucoup de logements pour les fonctionnaires, une cité ministérielle, un nouveau stade flambant neuf, etc. Pas mal de choses.
Voilà, c'était le docteur Abdoulo, directeur pour l'Afrique du cabinet Access Partnership.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Éviter la disparition du lac Tchad, l'urgence est bien réelle. C'est ce qui ressort d'une conférence organisée ces trois derniers jours par le gouvernement nigérian et l'UNESCO. Le sommet a réuni des dizaines d'experts et de diplomates à Abuja. Il a surtout été question de méga projet Transaqua. Ce projet pharaonique bénéficie du soutien chinois. Il s'agit de creuser un canal de 2600 km depuis la République démocratique du Congo, passant par la Centrafrique jusqu'au lac Tchad. Il pourrait coûter jusqu'à 14 milliards de dollars et suscite de fortes résistances à Kinshasa. Pour faire le point sur la conférence, Jacques Aristide a joint notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Ce qui ressort surtout de cette conférence, c'est que pour les participants, il n'y a pas d'autre solution pour sauver le lac Tchad que de faire le transfert d'eau entre les différents bassins, ce qui veut dire que l'eau doit venir de l'extérieur. Et donc, les représentants de 30 pays qui ont pris part à ce sommet disent que le transfert d'eau entre les bassins n'est pas une option, mais plutôt une nécessité.
Le méga projet Transaqua imaginé dans les années 80 et qui consiste justement à remplir le lac Tchad est revenu sur le tapis. Mais y a-t-il espoir que cette fois-ci le projet verra le jour?
Il y a l'espoir parce que cette fois-ci, là, à ce niveau, ils ont proposé la création d'un fonds de développement africain infrastructurel, donc qui sera doté de 50 milliards pour le coût d'envoi de ce projet. Et donc, ce qui veut dire que si ça se passe comme c'est prévu, dans les 10 prochaines années, on pourra enfin voir mettre ce canal en Afrique qui doit donc relier le bassin du Congo au bassin du Tchad et ouvrir tout un corridor de développement agro-industriel de 50 km carrés de développement pour l'irrigation, pour l'agriculture et aussi pour aider à apaiser les tensions dans cette région qui est devenue aujourd'hui un foyer de conflit.
A-t-on évoqué lors de ce sommet les réactions négatives en RD Congo qui doit donner son accord à ce projet?
Le sommet n'a pas discuté de point de vue en République de Congo. Pourtant, il y a eu un représentant du ministère de l'Environnement de la RDC qui a fait une présentation d'ailleurs spectaculaire durant ce sommet, qui a parlé d'autres sommets, mais n'a pas vraiment rejeté l'idée du transfert de cette eau vers le lac Tchad.
Le correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tamba, est en ligne de la capitale nigériane.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. 00 1 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Au revoir.
Partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM. À Lomé 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le département américain de la justice a annoncé le 16 février 2018 qu'un grand jury siégeant à Washington a procédé à des inculpations sur la base d'un dossier fourni par le procureur spécial Robert Mueller. Des chefs d'accusation ont été retenus contre 13 ressortissants et 3 compagnies russes pour crimes fédéraux commis dans une tentative d'ingérence dans le système politique américain, y compris l'élection présidentielle de 2016. Selon le dossier d'inculpation, 12 des individus ont travaillé à différents moments pour Internet Research Agency, LLC, compagnie russe basée à Saint-Pétersbourg et engagée dans des opérations d'interférence avec les processus électoraux et politiques. Cette organisation aurait conduit ce que le dossier d'inculpation présente comme étant une guerre de l'information contre les États-Unis avec l'objectif de propager la méfiance à l'égard des candidats et du système politique en général. L'un des prévenus, Yevgeny Viktorovich Prigojin, aurait financé la compagnie Internet Research Agency, LLC, à travers des compagnies qu'il contrôlait, à savoir Concord Management and Consulting, LLC, et Concord Catering, déboursant souvent les fonds par les biais des filiales. Cette opération d'influence serait partie d'une plus grande opération baptisée Projet Lacta. Le projet Lacta comprend de nombreuses composantes, certaines orientées vers les audiences domestiques au sein de la Fédération russe et d'autres visant des audiences étrangères dans des multiples pays. Les prévenus auraient également recruté et payé des Américains pour s'engager dans des activités politiques, promouvoir des campagnes politiques et organiser des réunions politiques. Le dossier d'accusation stipule que les prévenus et leurs complices se sont fait passer pour des activistes américains, ne s'identifiant jamais comme russes dans leur communauté. Communication avec les Américains. Le dossier inclut 8 chefs d'accusation criminelle. Il n'y a aucune indication que des Américains ont pris part à cette activité criminelle en connaissance de cause. Il n'y a aucune allégation non plus que les faits incriminés ont affecté l'issue de l'élection présidentielle américaine de 2016. L'acte d'accusation sert de rappel que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être sur Internet, a déclaré le ministre adjoint américain de la Justice, Rod Rosenstein. L'acte d'accusation affirme que les conspirateurs russes veulent promouvoir la discorde aux États-Unis et saper la confiance publique en la démocratie. Nous ne devons pas leur permettre d'y parvenir. Le département de la justice continuera d'œuvrer avec les agences de maintien de l'ordre et de renseignement, ainsi que le Congrès pour défendre notre pays contre des projets similaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.